La fin du paresseux. L'extinction de la mégafaune australienne est probablement la première marque significative qu'Homo sapiens ait laissée sur notre planète. Suivie une catastrophe écologique encore plus grande, cette fois en Amérique. Homo sapiens fut la seule espèce humaine à atteindre le bloc continental de l'hémisphère ouest, où il arriva voici 16 000 ans, autour de 14 000 avant notre ère. Les premiers Américains arrivèrent à pied. À l'époque, le niveau de la mer était si bas qu'un pont de terre rattachait le nord-est de la Sibérie au nord-ouest de l'Alaska. Non que ce fût facile, le voyage était ardu, plus dur peut-être que la traversée en mer vers l'Australie. Sapiens dut commencer par apprendre à résister aux conditions arctiques extrêmes de la Sibérie du Nord, où le soleil ne brille jamais en hiver et où les températures peuvent tomber à moins 50 degrés. Jusque-là, aucune espèce humaine n'avait réussi à pénétrer des espaces comme la Sibérie du Nord. Même les Néandertals, adaptés au froid, se cantonnèrent à des régions relativement plus chaudes, plus au sud. Mais Homo sapiens, dont le corps était fait pour vivre dans la savane africaine plutôt que dans des pays de glace et de neige, trouva des solutions ingénieuses. Quand les bandes de fourrageurs sapiens migrèrent vers des climats plus froids, ils apprirent à se faire des chaussures de neige et des vêtements thermiques efficaces formés de plusieurs couches de peau et de fourrure cousues à l'aide d'aiguilles. Ils mirent au point des armes nouvelles et des techniques de chasse sophistiquées qui leur permirent de traquer et de tuer des mammouths ou les autres gros gibiers du Grand Nord. Avec l'amélioration de ces vêtements thermiques et de ces techniques de chasse, Sapiens osa s'aventurer toujours plus profondément dans des régions glaciales. À mesure qu'il allait plus au nord, vêtements, stratégies de chasse et autres techniques de survie continuèrent de progresser. Mais à quoi bon s'inquiéter? Pourquoi s'exiler délibérément en Sibérie? Peut-être certaines bandes furent-elles chassées au nord par la guerre, par des pressions démographiques ou des catastrophes naturelles. D'autres ont pu être attirées par des raisons plus positives comme les protéines animales. Les terres arctiques grouillaient d'animaux savoureux tels que les rennes et les mammouths. Chaque mammouth était source d'une énorme quantité de viande. Avec le froid, on pouvait même la congeler pour la consommer plus tard. De graisse goûteuse, de fourrure chaude et d'ivoire précieux. Les découvertes de Sungir le prouvent. Non contents de survivre dans les glaces du Nord, les chasseurs de mammouths prospéraient. Au fil du temps, les bandes essaimèrent largement, traquant mammouths, mastodontes, rhinocéros et rennes. Autour de 14 000 avant notre ère, la chasse en entraîna certains de la Sibérie du Nord-Est vers l'Alaska. Bien entendu, ils ne surent pas qu'ils découvraient un nouveau monde. Pour le mammouth comme pour l'homme, l'Alaska était une simple extension de la Sibérie. Au départ, les glaciers bloquèrent le passage de l'Alaska vers le reste de l'Amérique, ne permettant qu'à une poignée de pionniers isolés d'explorer les terres plus au sud. Autour de 12 000 avant notre ère, cependant, le réchauffement climatique fit fondre la glace et ouvrit un passage plus facile. Profitant du nouveau couloir, les hommes passèrent au sud en masse, se répandant à travers le continent. Initialement adaptés à la chasse au gros gibier dans l'Arctique, ils ne tardèrent pas à se faire à une stupéfiante diversité de climats et d'écosystèmes. Les descendants des Sibériens colonisèrent les forêts épaisses de l'est des États-Unis, les marais du delta du Mississippi, les déserts du Mexique et les jungles fumantes d'Amérique centrale. Certains se fixèrent dans le bassin de l'Amazone, d'autres s'enracinèrent dans les vallées des Andes ou la Pampa argentine. Tout cela en l'espace d'un millénaire ou deux. 10 000 ans avant notre ère, des hommes habitaient déjà la pointe la plus au sud de l'Amérique, l'île de Terre de Feu, à l'extrême sud du continent. Ce blitzkrieg à travers l'Amérique témoigne de l'incomparable ingéniosité et de l'adaptabilité insurpassée de l'Homo sapiens. Aucun autre animal n'avait jamais investi aussi rapidement une telle diversité d'habitats radicalement différents, et ce, en utilisant partout quasiment les mêmes gènes. La colonisation de l'Amérique fut peu sanglante, mais laissa derrière elle une longue traînée de victimes. Voici 14 000 ans, la faune américaine était bien plus riche qu'aujourd'hui. Quand les premiers Américains quittèrent l'Alaska pour le sud, s'aventurant dans les plaines du Canada et de l'ouest des États-Unis, ils trouvèrent des mammouths et des mastodontes, des rongeurs de la taille d'un ours, des troupeaux de chevaux et de chameaux, des lions géants et des douzaines d'espèces de gros animaux qui ont totalement disparu, dont les redoutables chats à dents de cimeter et les paresseux terrestres géants qui pesaient jusqu'à 8 tonnes et pouvaient atteindre 6 mètres de haut. L'Amérique du Sud hébergeait une ménagerie encore plus exotique de gros mammifères, de reptiles et d'oiseaux. Les Amériques avaient été un grand laboratoire d'expérimentation de l'évolution, un espace où avaient évolué et prospéré des animaux et des végétaux inconnus en Afrique et en Asie. Mais ce n'est plus le cas. 2000 ans après l'arrivée du sapiens, la plupart de ces espèces uniques avaient disparu. Dans ce bref intervalle, suivant les estimations courantes, l'Amérique du Nord perdit 34 de ses 47 genres de gros mammifères, et l'Amérique du Sud, 50 sur 60. Après plus de 30 millions d'années de prospérité, les chats à dents de cimeter disparurent, tout comme les paresseux terrestres géants, les lions énormes, les chevaux et les chameaux indigènes d'Amérique, les rongeurs géants et les mammouths. S'éteignirent également des milliers d'espèces de petits mammifères, de reptiles et d'oiseaux, et même d'insectes et de parasites. Toutes les espèces de tiques du mammouth sombrèrent dans l'oubli avec ce dernier. Voici des décennies que paléontologues et zooarchéologues, ceux qui cherchent et étudient les restes d'animaux, ratissent les plaines et les montagnes des Amériques à la recherche d'os fossilisés d'anciens chameaux ou de fesses pétrifiées de paresseux terrestres géants. Quand ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils emballent avec soin leurs trésors pour les expédier dans des laboratoires où chaque os, chaque coprolite, appellation technique des excréments fossilisés, est méticuleusement examiné et daté. Ces analyses donnent sans cesse les mêmes résultats. Les dernières crottes et les os de chameaux les plus récents datent tous de l'époque où les hommes inondèrent l'Amérique, entre 12 000 et 9 000 environ avant l'ère commune. Les chercheurs n'ont découvert des crottes plus récentes que dans une région. Sur diverses îles des Caraïbes, notamment à Cuba et à Hispaniola, ils ont en effet trouvé des fesses pétrifiées de paresseux terrestres qui dataient d'environ 5 000 ans avant notre ère. Or, c'est exactement l'époque où les premiers humains réussirent à traverser la mer des Caraïbes et à coloniser ces deux grandes îles. De nouveau, certains chercheurs essaient de disculper Homo sapiens pour blâmer le changement climatique, ce qui les oblige à postuler que, pour quelque mystérieuse raison, le climat des Antilles demeura statique pendant 7000 ans, alors que le reste de l'hémisphère ouest se réchauffait. En Amérique, cependant, impossible d'esquiver la crotte. Les coupables, c'est nous. Mieux vaudrait le reconnaître. Il n'y a pas moyen de contourner cette vérité. Même si le changement climatique nous a aidés, la contribution humaine a été décisive. Arche de Noé. Si aux extinctions de masse en Australie et en Amérique, nous ajoutons les extinctions de moindre ampleur qui se produisirent quand Homo sapiens se répandit en Afro-Asie, ainsi de l'extinction de toutes les autres espèces humaines, et les extinctions qui accompagnèrent la colonisation par les anciens fourrageurs d'îles aussi lointaines que Cuba, la conclusion est inévitable. La première vague de colonisation sapiens a été l'une des catastrophes écologiques les plus amples et les plus rapides qui se soient abattues sur le règne animal. Les plus durement touchés furent les gros animaux à fourrure. Au moment de la révolution cognitive, la planète hébergeait autour de 200 genres de gros mammifères terrestres de plus de 50 kilos. Au moment de la révolution agricole, une centaine seulement demeurait. Homo sapiens provoqua l'extinction de près de la moitié des grands animaux de la planète, bien avant que l'homme n'invente la roue, l'écriture ou les outils de fer. Cette tragédie écologique s'est rejouée en miniature un nombre incalculable de fois après la révolution agricole. Île après île, les données archéologiques racontent la même histoire. La scène d'ouverture montre une population riche et variée de gros animaux sans aucune trace d'humain. Dans la scène 2, l'apparition de sapiens est attestée par un os humain, une pointe de lance et peut-être un tesson de poterie. L'enchaînement est rapide avec la scène 3, dans laquelle des hommes et des femmes occupent le centre, tandis que la plupart des gros animaux et beaucoup de plus petits ont disparu. La grande île de Madagascar, à 400 km à l'est du continent africain, en offre un exemple fameux. Au fil de millions d'années d'isolement, un éventail unique d'animaux y était apparu. Ainsi, de l'oiseau-éléphant, créature incapable de voler de 3 mètres de haut pour près d'une demi-tonne, le plus gros oiseau du monde, et des lémures géants, les plus grands primates de la planète. Les oiseaux-éléphants et les lémures géants, comme la plupart des autres gros animaux de Madagascar, disparurent subitement voici 1500 ans, précisément quand les premiers hommes mirent le pied sur l'île. Dans le Pacifique, la principale vague d'extinction commença autour de 1500 avant notre ère, quand les fermiers polynésiens colonisèrent les îles Salomon, Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Directement ou indirectement, ils tuèrent des centaines d'espèces d'oiseaux, insectes, escargots et autres habitants locaux. De là, la vague d'extinction avança progressivement vers l'est, le sud et le nord, au cœur du Pacifique, effaçant sur son passage la faune unique de Samoa et de Tonga, 1200 avant notre ère, des Marquises, 1 an avant notre ère, de l'île de Pâques, des îles Cook et d'Hawaï, 500 ans avant notre ère, et pour finir, de Nouvelle-Zélande, autour de 1200. Des désastres écologiques semblables se produisirent sur presque chacune des îles qui parsèment l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan Arctique et la Méditerranée. Jusque sur les îlots les plus minuscules, les archéologues ont découvert les traces de l'existence d'oiseaux, d'insectes et d'escargots qui y vivaient depuis d'innombrables générations, à seule fin de disparaître quand arrivèrent les premiers humains. Une poignée seulement d'îles très lointaines échappèrent à l'attention de l'homme jusqu'à l'âge moderne, et ces îles gardèrent leur faune intacte. Les Galapagos, pour prendre un exemple célèbre, restèrent à l'abri des hommes jusqu'au XIXe siècle, préservant ainsi leur ménagerie unique, dont les tortues géantes qui, comme les anciens diprotodons, ne montrent aucune peur des humains. La première vague d'extinction qui accompagna l'essor des fourrageurs et fut suivie par la deuxième qui accompagna l'essor des cultivateurs nous offre une perspective intéressante sur la troisième vague que provoque aujourd'hui l'activité industrielle. Ne croyez pas les écolos qui prétendent que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature. Bien avant la révolution industrielle, Homo sapiens dépassait tous les autres organismes pour avoir poussé le plus d'espèces animales et végétales à l'extinction. Nous avons le privilège douteux d'être l'espèce la plus meurtrière des annales de la biologie. Si plus de gens avaient conscience des 2 premières vagues d'extinction, peut-être seraient-ils moins nonchalants face à la 3e dont ils sont partie prenante. Si nous savions combien d'espèces nous avons déjà éradiquées, peut-être serions-nous davantage motivés pour protéger celles qui survivent encore. Cela vaut plus particulièrement pour les gros animaux des océans. À la différence de leurs homologues terrestres, les gros animaux marins ont relativement peu souffert des révolutions cognitives et agricoles. Mais nombre d'entre eux sont au seuil de l'extinction du fait de la révolution industrielle et de la surexploitation humaine des ressources océaniques. Si les choses continuent au rythme actuel, il est probable que les baleines, les requins, le thon et le dauphin suivent prématurément dans l'oubli les diprotodons, les paresseux terrestres et les mammouths. Parmi les plus grandes créatures du monde, les seuls survivants du déluge humain sont les hommes eux-mêmes. Et les animaux de ferme, réduits à l'état de galériens dans l'arche de Noé.